Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
On va essayer donc de passer les micros. Il y a un micro à gauche et un micro à droite. Donc n'hésitez pas, on a un petit peu de temps. J'ai fait exprès. On n'est pas allé forcément sur beaucoup d'exemples non plus parce que je pense qu'il va y en avoir avec les prises de parole. On va commencer. Alors, les jeunes du conseil départemental des jeunes lèvent la main et bien évidemment, on va leur passer le micro. Et ensuite, monsieur. Alors, et bonsoir.
Alors bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous remercier pour tout le débat que vous avez eu. C'était très, très enrichissant. Et j'ai beaucoup noté sur tous les débats que vous avez eus sur la laïcité. Moi, j'ai des questions sur, en particulier, le rôle de l'État. Comment garantir la neutralité de l'État en respectant la liberté individuelle? Ça, c'est une question un peu générale. Et enfin, est-ce que par rapport à la loi de 2004, jusqu'où l'État doit-il intervenir pour les atteintes, contre les atteintes de la laïcité. Voilà.
Alors, moi, ma question... Bonjour. Bonjour. Moi, ma question, c'était pour les ateliers qu'il y avait dans les collèges publics. Et moi, j'ai fait 3 collèges publics dans la Haute-Garonne. J'ai jamais vu les ateliers sur la laïcité.
Et bam! Et bam, merci. Tu pourras éventuellement reprendre la parole après. Hein, sur le... Je vais, alors, le micro, il y a monsieur qui est en plein milieu derrière, mais on va répondre à ses questions. On va essayer de lui faire passer le micro avec l'aide du public, comme on dit. Alors, il y a une première question, oui, sur la neutralité et pour garantir la liberté individuelle, la neutralité des agents publics en général.
Alors, la neutralité, c'est une condition pour respecter la liberté individuelle. C'est-à-dire qu'un agent public, un professeur, magistrat, enfin, un agent public, il doit être neutre. Ça veut dire qu'il ne doit pas exprimer ses propres opinions, ses opinions personnelles, politiques, philosophiques ou religieuses. Pourquoi ? L'État impose à tous les fonctionnaires, à tous les agents qui travaillent dans les services publics de ne pas exprimer ce qu'ils pensent. Eh bien, c'est pour protéger la liberté des usagers. Voilà, parce que quand vous allez à la poste, quand vous allez à l'école, quand vous allez n'importe où vous alliez dans les services publics, il ne faut pas que l'agent se présente à vous comme étant un juif, un communiste, un musulman, un catholique, un libéral. C'est pour vous qu'il fait ça. Parce que s'il le faisait, il vous imposerait à vous ce qu'il est, ce qu'il pense lui. Or, il n'agit pas pour lui, c'est pas lui qui agit, c'est l'agent qui agit, c'est le professeur qui parle. C'est pas Pierre, Paul, Jacques qui parle, c'est un professeur. Et donc, c'est parce qu'il a cette neutralité que vous avez la liberté de conscience. C'est pour ça que la neutralité existe. Voilà.
Pour faire respecter la loi de 2004, on n'a pas forcément parlé de toutes les sanctions qu'il pouvait y avoir. C'est quoi les sanctions d'ailleurs? Ce sont des amendes? Ça peut être plus grave?
Alors non. Il faut savoir que dans la circulaire concernant la loi de 2004, la première chose qui est signalée, qui est dite et qui est donnée au chef d'établissement, c'est la nécessité du dialogue. C'est-à-dire, alors c'est pas un dialogue pour négocier. Hein. Il ne s'agit pas de négocier l'éventuel port de signes manifestant une appartenance religieuse. Il s'agit de dialoguer pour expliquer à l'élève pourquoi il ne peut pas manifester son appartenance religieuse au sein de l'école par le port d'un signe ostensible.
Je l'ai là, le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève.
Voilà. Dans la loi. Et donc, ce dialogue, en général, permet de résoudre les situations. Et de manière très, je dirais même presque anecdotique, en réalité, à partir du moment où l'élève marque un refus répété d'enlever le signe manifestant une appartenance religieuse, là, il y a conseil de discipline. Voilà. Et le conseil de discipline statue sur en général, l'exclusion.
Alors, ça, c'est à l'école. Imaginons que je vais voir, moi, un agent dans une collectivité, puis me reçoit. Et à chaque fois que je vais le voir pour faire une démarche, il me dit, tiens, il faut voter pour tel candidat, au fait. Hein. Il est comme ça, c'est celui-là ou c'est le prochain, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe?
Sanction disciplinaire.
Ça, c'est sanction disciplinaire pour le pour l'agent. Et si on a des manifestations d'atteinte à la laïcité, par exemple des prières de rue, j'organise une prière pour toutes les religions d'ailleurs, de toutes les religions différentes, mais tous les jours en plein milieu de la rue.
Alors l'œcuménisme sur la voie publique, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
C'est un rêve.
Mais mais chaque jour un, c'est juste pour provoquer la police. Donc j'organise une prière de rue avec 30 personnes. Est-ce que j'ai une amende plus?
C'est une manifestation qui doit être déclarée en préfecture.
Je la déclare pas. Je la déclare pas.
Bah, toute manifestation non déclarée est interdite.
D'accord. Voilà. Donc on rentre dans ce cadre-là. Oui.
Mais vous savez, vous me faites penser à une histoire. Je ne sais pas si vous l'avez suivie il y a pas longtemps. Dans un village en Corse, je ne sais pas si ça parle à certains. Dans un village en Corse, une croix avait été installée très récemment. Hein, donc un calvaire est installé sur le domaine public. Une personne. Visiblement très courageuse en réalité, ou alors un peu inconsciente, je ne sais pas,
en Corse.
Venant de s'installer, je crois, dans le village depuis peu de temps, donc je pense que c'est quelqu'un qui ne savait pas trop bien où elle habitait, hein, mais bon, peu importe, c'est son problème, ce n'est pas le mien, mais en toute légalité, je veux dire, elle a prévenu la préfecture en disant « mais là, il y a quand même un crucifix, enfin un calvaire qui vient d'être installé sur le domaine public ». Et le préfet, constatant la chose, a pris un arrêté en disant « Vous m'enlevez ce truc-là. » Voilà, vous m'enlevez ce truc-là. Alors, donc, cette personne qui a dénoncé cet acte avait la loi pour elle. Est-ce qu'elle a l'avenir pour elle? Ça, j'en sais rien. Mais elle avait la loi pour elle. Quoi qu'il en... Et donc, vous voyez bien que tout n'est pas possible. On ne peut pas faire n'importe quoi sur le domaine public.
Alors moi, j'ai lu un article aussi dernièrement, mais c'était sur trois croix différentes avec peut-être des groupes qui installait ses croix pour provoquer un petit peu, parce que la mairie avait été obligée d'en descendre une en hélicoptère.
C'est tout à fait possible.
C'était le jeu du chat et de la souris un petit peu pour installer des croix. Alors bon, sur la, alors il parlait des ateliers qu'il n'y avait pas eu sur trois collèges différents. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce qui est mis en place? Alors le président Vincini nous a parlé des actions qui étaient mises en place au niveau du département, mais par rapport aux jeunes notamment que vous voyez. On en est où de cette formation, de cette éducation à la laïcité? Il y a des signes encourageants ou c'est compliqué? On a une demi-réponse déjà, en non. Mime.
Il y a les pessimistes et les optimistes. Voilà, vous savez, c'est comme il y a le good cop et le bad cop. Moi, je serais un peu optimiste, un peu. Je crois d'abord que depuis 2021, les fonctionnaires de l'éducation nationale ont été beaucoup, 850 000 en fait, hein, ont reçu une formation. Il ne faut pas se leurrer, les formations elles sont toujours inégales. Il y a des formations qui sont très bonnes avec d'excellents formateurs, puis il y a des formations qui sont moins bonnes avec des formateurs qui sont moins bons. Donc ça, c'est un peu la loterie, c'est comme ça. Il y a des contenus de formation qui sont hyper bien pensés, puis d'autres qui sont un petit peu caricaturaux, certains qui sont un petit peu trop juridiques, et d'autres qui sont un petit peu à côté du droit. Un petit peu trop, ça arrive.
C'est souvent des exemples, hein, c'est des situations, oui. C'est du vécu, quoi.
Voilà, c'est du
vécu. Qu'on vient chercher.
Et donc, ces enseignants étant mieux formés, moi, je suis convaincu qu'ils apportent des réponses bien plus construites à leurs élèves. Mais maintenant, j'ai l'impression, mais ce n'est peut-être qu'une impression, qu'il manque encore quelque chose à l'éducation nationale. Je généralise, je ne devrais pas, parce que ça n'a pas de sens de généraliser, mais excusez-moi de le faire comme ça. Il manque quand même, je crois, au corps enseignant, d'une manière générale, même si certains le font de manière admirable, d'arriver à construire une vraie pédagogie de la laïcité. C'est-à-dire de mettre en place des activités pédagogiques, des stratégies pédagogiques pour enseigner ce principe républicain de manière à intéresser les élèves, à leur faire comprendre les grands axes de la laïcité et à les faire adhérer au principe de laïcité. Vous savez, moi, je teste tous les ans et je me marre en fait avec mes élèves. Heureusement qu'on se marre dans ce métier parce que... Je leur fais étudier des articles de presse de ce qui se passe dans le monde concernant la liberté, par exemple la liberté, justement, la liberté de conscience, la liberté de pratiquer librement son culte, sur l'homosexualité, etc., etc. Et en fait, pour travailler un peu en négatif, c'est-à-dire, Voilà, en quoi ce qui se passe contredit les valeurs de la République française et comment ça se passe en France sur cette question-là. Et tous les ans, j'ai au moins un ou deux élèves qui finissent par me dire « Eh, monsieur, en fait, c'est bien la France. Hein. » Ouais, c'est pas mal la France. Donc, il y a matière à faire des choses, à faire réfléchir les élèves, à les faire progresser sur la compréhension de ce, que, de ce qu'ils vivent, en fait. Parce que le problème de nos élèves, qui est un problème partagé en réalité, c'est que nous avons du mal à nous décentrer. Et qu'effectivement, quand on vit dans un pays où nous nous appuyons sur ces principes républicains et ces valeurs républicaines, cela nous semble une évidence. Mais c'est tout sauf une évidence en réalité. Et je crois qu'il faut le rappeler sans arrêt à nos élèves.
Catherine Kinsler.
Oui. Alors, je voudrais ajouter quelque chose qui peut-être va paraître un petit peu différent de ce que vient de dire Yanis, ici à temps d'ailleurs, je pense. Oui, l'école de la République, elle doit d'abord transmettre des connaissances et faire partager les valeurs de la République. Moi, je ne lis pas comme une équivalence ni comme sur le même niveau. Je pense qu'il s'agit d'un « et » d'articulation. Une école qui n'instruit pas n'est pas laïque. Il faut mettre les savoirs, il faut revenir aux fondamentaux, comme au rugby. Il faut mettre les savoirs au centre, parce qu'il n'y a rien de plus laïque. Et à partir de là, effectivement, on peut déduire les principes républicains. Quand tu as compris une soustraction avec retenue, qui es-tu ? Qui est-ce qui a compris ? Est-ce que c'est le petit catholique, le petit musulman, la petite incroyante ? Non. La question « qui suis-je » est beaucoup plus vaste. Alors là, oui, on peut parler de laïcité. Moi, je pense qu'il faudrait effectivement travailler sur une pédagogie de la laïcité, sur la manière laïque d'enseigner. Voilà, c'est ce que nous essayons de promouvoir au
Conseil des
Sages.
Il faudrait confier cette mission aux sages de la laïcité.
Mais si on divise la proposition, transmettre des connaissances et les valeurs de la République, et qu'on se sert des horaires d'enseignement comme variable d'ajustement pour, allez, ce qui ne serait plus qu'un prêchi-prêchat, alors on promeut, d'abord, on fait une mauvaise action parce qu'on ne met pas les esprits debout, on ne les aide pas à se mettre debout, et deuxièmement, on entre dans une religion civile. On risque d'entrer dans une religion civile. Donc les choses sont très délicates et pour cela, il faut des professeurs très bien formés. Alors bien sûr, ce qu'a décrit Yanis, c'est le travail de l'éducation morale et civique, mais c'est un travail de tous les jours. Le professeur de mathématiques peut déduire des conséquences laïques de sa manière d'enseigner, de ce qui a été fait en classe. Donc il faut mettre au premier plan l'instruction, remettre au premier plan l'instruction, remettre des horaires. Ils ont perdu presque 2 ans entre, je crois, bon, j'ai pas les dates en tête, mais entre 50 ans d'enseignement du français. Combien ont-ils perdu d'heures de mathématiques ? Alors ça, c'est grave. C'est grave. C'est pas bien d'avoir fait ça. Il faut remettre les fondamentaux au premier plan. Et à ce moment-là, oui, nos élèves, eh bien, ils nous seront reconnaissants de les avoir instruits, même si ça ne s'est pas toujours bien passé, parce qu'il y a de la négativité à l'école aussi.
Ça peut arriver. Ça peut arriver. Merci. Monsieur, bonsoir, et ensuite, monsieur.
Oui. Vous avez évoqué la loi de Jules Ferry 1882 avec les articles concernant le refus des pratiques sectaires, car il n'existe pas de secte, mais des pratiques sectaires. Nous avons connu en 1987, je crois que c'était les témoins de Jéhovah qui avaient, enfin l'ancienne direction qui avait prétendu effectivement à de plus grandes libertés en France et une reconnaissance infiniment plus importante. Et nous avions eu Alain Juppé qui avait, d'ailleurs il y avait une demi-page dans Le Monde, qui avait d'articles qui avaient dénoncé effectivement une telle situation. Et l'État, d'une part, les partis politiques, d'autre part, avaient pris leurs responsabilités. Nous avons eu en troisième lieu, vers 2005, et certains parmi nous ont bien connu cela directement, ces familles du monde d'origine musulmane qui, par exemple, du côté de Mantes-la-Jolie, ont vu leurs gosses harponnés par des téléphones de gens qui les faisaient venir au titre du djihad. nous avons aujourd'hui, nous pouvons avoir, et des médias en parlaient la semaine passée, nous pouvons avoir des jeunes femmes qui, dans la rue, systématiquement et se déplaçant dans des quartiers où il peut y avoir des jeunes en déscolarisation ou désocialisation, et qui disent « cette laïcité française, c'est une mauvaise laïcité, je me battrai infiniment pour imposer la charia ». Que peut-on faire face à ces types de personnes qui sont peut-être du 1 sur 500 000 ou 1 million, ou je ne sais, face néanmoins à cette réalité extrême et limite, lors même que nous développons, comme vous le dites, mais vous l'avez évoqué surtout dans un cadre scolaire, la laïcité.
Merci beaucoup. Je vais prendre la... Si monsieur... Oui, et on va faire répondre monsieur Gibert sur les ateliers. Sur cette question éminemment difficile... Qui veut essayer de donner quelques éléments ?
Vous parlez de la radicalisation, de l'intégrisme, il faut lutter contre. Voilà, donc il faut renvoyer les gens, il faut... Il y a tout un arsenal pénal contre ça. Et c'est pas propre à l'islam. Hein ? L'intégrisme est inhérent à tous les grands monothéismes. Après, ils n'investissent pas les mêmes champs. L'intégrisme catholique investit le champ artistique, par exemple. Donc là, il faut savoir qu'il y a des décisions qui sont prises, par exemple, pour arrêter Kiwitas, qui voudrait que des pièces de théâtre ne soient pas tenues dans des théâtres, qui fait des messes, justement, devant les théâtres. Et bien là, il faut que les forces de l'ordre viennent et fassent respecter l'ordre public. Tout intégrisme, toute radicalisation, quelle que soit sa nature, et même elle peut être de toute logique sectaire. Vous parlez de pratique sectaire, en faire que le droit sanctionne les dérives sectaires. Et tout groupe est concerné, et pas seulement une religion particulière. Donc c'est politique, ça, il faut agir, il faut la force publique, les sanctions, et voilà.
Denis Schröder.
Oui, il y a aussi le rôle de la prévention et quelque part de la veille, je dirais de la veille plutôt que de la surveillance, de la veille. C'est-à-dire que il y a parfois, et là je reviens à l'école, parce que l'école est aussi un lieu où vont se manifester, hein, cette radicalité va se manifester, cette radicalité dont vous parlez. Et là, c'est le rôle des enseignants de le repérer, c'est le rôle de la vie scolaire, c'est le rôle des chefs d'établissement. Et il y a des process, hein, comme on dit aujourd'hui, il y a des process de signalement pour effectivement des soupçons de radicalisation. Il ne s'agit pas de dénoncer, il s'agit de protéger les enfants. Il s'agit de protéger les enfants qui peuvent se retrouver effectivement entraînés dans un processus parfois familial ou parfois individuel, hein, de radicalisation. Et là, il faut protéger les enfants. Donc, il y a des process qui existent, qui sont en lien avec la préfecture et avec les services des renseignements. Donc, tout cela, ça existe. Et alors, après, effectivement, moi, je pense que c'est un combat, un long combat. C'est un combat difficile parce que c'est très compliqué de savoir pourquoi un jeune tombe dans se retrouve séduit par des idéologies que je vais appeler absolutistes, pour reprendre les mots des sociologues Olivier Galland et Anne Muxel. Donc des idéologies absolutistes, c'est très compliqué de savoir pourquoi on tombe là-dedans. Il y a différents facteurs. En tout cas, ce que moi je sais, c'est que le facteur social est loin d'être le seul facteur, et surtout il n'explique pas tout, loin de là. Donc il faut, je pense, déjà arrêter de dire c'est parce que les gens sont dans la misère qu'ils deviennent radicaux. Ça, ce n'est pas vrai. Donc ça peut éventuellement jouer un rôle, mais c'est toujours multifactoriel, et ça, c'est très important de le dire. D'autre part, la radicalisation va donner du sens à la vie individuelle, collective, et certains ont besoin de ce sens-là, parce qu'il y a peut-être un vide individuel, il y a peut-être des fractures personnelles, des failles personnelles. Vous savez, on est à Toulouse. Et moi, quand vous posez ces questions-là, je pense toujours à ce qui s'est passé à Toulouse en 2012 et à l'école aux Aratora et à ces ces militaires assassinés à Montauban. Ce terroriste qui a assassiné venait d'une famille qui était totalement déstructurée, avec un père qui était violent, avec une mère qui a été quittée par le papa, violent sur la maman et sur les enfants, une mère qui a été quittée par le papa, qui a une vie après dissolue, dont les enfants étaient témoins, ce qui a été aussi destructeur. Et donc, ils avaient sombré dans la délinquance. Et puis, une des sœurs est arrivée un jour avec l'islamisme. Et quand elle est arrivée avec l'islamisme, en fait, c'est comme si elle avait mis un couvercle sur une marmite qui était en train de bouillir. Cet islamisme, il a donné, parce qu'il faut nommer les choses, il a donné un cadre, il a donné des lois, il a donné des limites que ces jeunes n'avaient pas. Et ils ont trouvé là du sens à leur existence. Donc, comment on fait pour lutter contre cela? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que vous ne pouvez plus, cette famille-là en tout cas, vous ne pouvez pas, il faut arrêter de penser qu'on peut, celle-ci en tout cas, la déradicaliser, ce n'est pas possible en fait. Parce que si vous la déradicalisez, enfin si ces gens quittent cette radicalisation, ils s'effondrent littéralement en fait. Ils meurent. Ils ne peuvent pas mourir. Voilà. Donc, mais chaque cas de radicalisation est différent. Chaque cas est différent et rien n'est jamais sûr, si vous voulez. D'accord ? Donc, mais c'est extrêmement compliqué à partir du moment où quelqu'un est rentré totalement dans une idéologie. Et je prendrai un autre exemple. On n'a pas de dignitaires nazis qui ont regretté ce qu'ils avaient fait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Adolf Eichmann, qui, quand il est jugé à Jérusalem, joue un cinéma. Un an avant, il donnait une interview à un ancien SS hollandais à qui il disait « Mon seul regret, c'est de ne pas avoir fini le travail. » Voilà. Donc, une fois qu'on est rentré dans ce type d'idéologie, est-ce qu'on peut en sortir ?
Catherine Kinzer, on va essayer de ne pas faire trop long parce que je vais essayer de prendre d'autres questions.
Pour enchaîner sur ce que vient de dire Yanis, je crois que là aussi, il y a une faille, il y a une carence. Pas pour ceux qui sont radicalisés, là, vraiment, on ne peut rien faire, mais pour ceux qui vont tomber dans cette fascination, parce qu'on n'est plus capable de leur proposer des nourritures fortes. Et nos élèves, il ne faut pas oublier qu'ils ont l'âge héroïque et qu'ils ont l'âge métaphysique. Si nous ne sommes pas capables de leur proposer des discours rationnels, mais à la fois héroïques et métaphysiques. Moi, j'étais professeur de philosophie, j'ai tenu des discours métaphysiques. J'ai expliqué ce que c'est que la métaphysique aux élèves. Je l'ai fait rationnellement, mais il y avait quelque chose d'un enthousiasme. Donc, si on abandonne ce terrain-là, eh bien, les gourous le font beaucoup mieux. Ils le feront parce qu'il y a un vide, ils s'en empareront. On ne fait plus ce genre de choses à l'école. Pourquoi ? Parce qu'on ne lit plus les grands textes de la littérature classique, ou quand on les lit, c'est malgré tout un courant. C'est parce que les professeurs se battent pour le faire. Tous ces grands textes qui sont écrits en alexandrin classique, parce que ça existe toujours, l'alexandrin classique, les grandes chansons sont écrites en alexandrin classique, en octosyllabes. Eh oui, donc il faut le faire tout ça. Il faut ouvrir tout ça. Il faut leur donner de quoi se nourrir. Il faut être fier de cela. Et si la France n'est pas fière de sa culture, de tout ce qu'elle a produit, de toutes les inventions, je vais pas faire la liste, mais il y en a énormément, la chimie, l'optique, l'algèbre, la théorie des courbes, l'aéronautique,
pas toute la liste.
C'est pas trop mal, hein, la photographie, bon, mais il y a de quoi être enthousiaste. Mais il faut le faire, il faut le dire. Bon.
Je vais donner la parole à monsieur, juste avant, Vincent Gibert, pour compléter la réponse au jeune homme sur les ateliers, qui parlait soit d'éducation à la laïcité ou des ateliers.
Bien, bonsoir à nos intervenants, ou plutôt rebonsoir à nos intervenants, et puis bonsoir à toutes et tous. Je n'ai donc pas une question, mais bien quelques éléments de réponse à apporter, puisque vous avez été confronté à une question à laquelle vous n'aviez pas les éléments. Vous l'aurez compris dans les mots qui ont été ceux du président, l'attachement de notre institution à la République et ses valeurs est pour nous une véritable boussole. Et la volonté qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que cette République, elle ne soit pas éternellement une promesse pour certains et une réalité pour d'autres. Et dans ce cadre-là, le rôle de l'école, la vision qui est la nôtre de ce que doit être le rôle de l'école. C'est un rôle central et majeur. C'est ce qui nous amène à, bien évidemment, répondre aux obligations qui sont faites par l'État à une collectivité comme la nôtre, mais c'est ce qui nous amène aussi à aller plus loin. Et notre jeune membre du conseil départemental des jeunes, et vous étiez toutes et tous ensemble en train de préparer les questions que vous alliez nous poser, vous a posé une question sur les ateliers qui sont faits dans les collèges. Ces ateliers, ils sont faits dans le cadre d'un dispositif dont le président a parlé, qui s'appelle le parcours laïque et citoyen. Ce parcours laïque et citoyen, c'est la volonté qui a été la nôtre de permettre à des acteurs associatifs du territoire, tout particulièrement des acteurs de l'éducation populaire, de pouvoir entrer dans les établissements pour travailler avec les jeunes sur ce que doit être leur propre citoyenneté, leur donner les outils pour être eux-mêmes des citoyens. Et donc, ces ateliers, nous sommes la seule collectivité en France à les proposer auprès des collégiens qui sont à un âge, vous l'avez dit, où se construit cette citoyenneté, un âge charnière dans la vie des jeunes. Et donc, nous avons chaque année plus de 2200 classes qui participent et qui bénéficient d'un atelier proposé par des structures qui peuvent être diverses, parce que vous avez des structures culturelles qui peuvent parler de laïcité, des structures sportives qui peuvent parler de laïcité, des structures de l'éducation populaire. Et donc, peut-être que ton jeune collègue a participé, sans le savoir, à un de ces ateliers. Et ce sont plus de 400 000 collégiens qui ont déjà participé à ce dispositif-là. Et donc, je vais m'assurer auprès de lui qu'il a fait quelques pas pour nous quitter désormais, qu'il n'a bien pas participé à un atelier. Si c'est le cas, on reviendra vers son établissement pour qu'il se saisisse plus de l'offre qui est faite, mais surtout essayer d'expliciter auprès de lui ce qu'est la réalité de ce parcours laïque et citoyen et voir dans quelles conditions il a pu y participer, parce que vous êtes toutes et tous amenés, chers jeunes des collèges au Garonnais, à participer à ce parcours laïque et citoyen. Et je vois les visages nombreux et nombreux de celles et ceux qui, dans cette salle, sont à nos côtés pour mener ces discussions, ces débats dans les collèges de la Haute-Garonne.
Merci beaucoup pour ce point. Monsieur.
Oui, bonsoir déjà. Déjà, merci pour votre présence et, votre, et toute l'intervention que vous avez faite. D'ailleurs, j'ai eu l'impression de retrouver énormément la formation que j'ai faite au sein du conseil départemental sur la laïcité. Donc, comme quoi, elle était plutôt de très bonne qualité. Moi, je voulais intervenir par rapport au fait que vous avez énoncé tout à l'heure l'aspect de la transmission parentale. Je crois que, comme tout à chacun, on est issu un peu de ce que nos parents nous ont donné. Mais là, j'ai l'impression que les générations un peu plus jeunes ont, certes, l'aspect de la transmission parentale, mais on a l'impression qu'il y a que cet aspect-là n'est pas toujours, c'est pas toujours cet aspect-là de la transmission parentale qui les forme aujourd'hui à ce qu'ils sont et aux remises en question de certaines valeurs qu'on peut retrouver dans la laïcité et ce qui bloque un petit peu dans certains moments. Je pense entre autres par rapport à la problématique des réseaux sociaux qui sont souvent un facteur aujourd'hui extrêmement preneur de temps pour certains jeunes et qui leur donne une transmission de valeurs qui ne sont peut-être pas toujours bien maîtrisées.
Merci pour la question. Effectivement, c'est une question qui est revenue aussi au Conseil départemental des jeunes. Eux-mêmes en ont conscience, hein, du fait qu'il y a les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, il peut y avoir Catherine Kinsler, Yannis Röder, Frédéric de la Morena, mais beaucoup, beaucoup d'autres qui peuvent dire tout et son contraire. Comment est-ce qu'on fait ? Effectivement, il y a la sphère parentale et il y a les croyances qui sont apportées par les parents, mais aujourd'hui, les croyances, elles sont apportées par les réseaux sociaux. Et un coup, je pense ça. Une semaine après, je pense l'inverse. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça ? Et est-ce que c'est possible, tout simplement, là ?
Alors, soit comme l'Australie, on interdit les réseaux sociaux au moins de 14 ans.
C'est aujourd'hui, voilà. Effectivement.
Soit on renforce la formation et l'éducation. Enfin, voilà, moi, je ne vois que ça. Je ne peux, moi, enfin, nous, on ne peut rien faire contre les réseaux sociaux, on peut juste derrière rattraper le coup. Après, c'est à l'État à décider si il faut arrêter. C'est terrible.
Enfin, voilà. Un petit mot chacun, hein, si bon, il n'y a pas trop de solutions encore.
En fait, là, moi, j'étais optimiste sur l'école. Là, je vais être très pessimiste, en fait. Je pense que les réseaux sociaux sont en train de détruire réellement les démocraties. Mais vraiment. Et alors, on ne s'en rend pas forcément compte parce que en réalité, c'est aussi une question de génération. Si je vous faisais lever la main, là, si je demandais qui est sur les réseaux sociaux, je suis sûr que la moitié des gens, au moins dans cette salle, ne sont pas sur les réseaux sociaux, à part Catherine. Donc, et n'ont pas nécessairement d'activité sur les réseaux sociaux. En revanche, il faut savoir que tous les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Tous les jeunes. Et nous, quand on a mon âge, quand on est sur les réseaux sociaux, bon, moi, j'y suis pas. Mais on est surtout sur Facebook, en fait. Les jeunes, Facebook, c'est has-been, mais total. Hein, je veux dire, ça n'existe même plus. Donc, Facebook, ils n'y sont plus, parce que Facebook, on discutait, on écrivait, etc. Là, c'est bam, 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 TikTok, au mieux X, enfin Twitter. Et donc, je pense qu'on est rentré dans une période qui, moi, me semble extrêmement inquiétante. Parce que nous construisons des réalités parallèles où les mots n'ont plus du tout le même sens en fonction de celui ou celle qui les emploie, en fonction du lieu virtuel ou réel où les mots sont employés. Et donc, on est en train de construire des mondes vraiment totalement parallèles où les signifiants et les signifiés n'ont pas du tout les mêmes valeurs. Et ça, ça devient... Enfin, je pense que c'est un réel danger. Alors, soit l'État s'en empare, et comme l'a dit Frédéric, peut-être par des mesures peut-être coercitives, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas attendre que l'école résolve la question, parce qu'elle ne pourra pas. Voilà, elle ne pourra pas. Franchement, je vous le dis, elle ne pourra pas. On n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, et c'est un rouleau compresseur que ce truc. Donc là, franchement, je ne suis pas optimiste.
Catherine Kinsler.
Oui, je voudrais ajouter une chose. Oui, parce que moi, je pratique tout ça parce que j'étais toujours fascinée par les machines. J'adore les machines. Bon, c'est comme ça. Bon. Alors, en 2005, quand il y a eu le grand débat sur le référendum...
Sur l'Europe.
L'Europe. Il y a eu un contournement des médias classiques qui disaient presque tous la même chose... par les blogs et Internet. Et le débat était d'excellente qualité. D'excellente qualité. Donc, ce n'est pas le support, ce n'est pas Internet. D'excellente qualité. Le problème, c'est que le résultat du référendum, les politiques se sont assis dessus. Il y a eu quand même un dessaisissement de l'autonomie du politique. Là. Bon, ça, c'est une parenthèse. Maintenant, moi, je suis sur quelques réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, on ne rencontre que ceux qui pensent, quand on pense, comme vous, qui sont du même avis que vous. Donc vous avez un miroir. C'est une réalité virtuelle. Donc, c'est une bulle. Et deuxièmement, je le constate sur moi, c'est addictif. C'est comme les cacahuètes. Hein, quand vous pouvez pas, c'est très difficile de s'arrêter. Il faut se donner des limites. Alors, sur la réalité virtuelle, il y a un autre phénomène, c'est l'intelligence artificielle, qui est très performante, qui est un outil merveilleux, mais qui n'est pas du tout fixée sur la question de l'authenticité ni de la véracité. Elle brasse tout ce qui traîne sur le web. Tout. C'est énorme, les datas. Donc, attention, c'est la véracité et l'authenticité qu'il faut vérifier. Sinon, ce sont des outils formidables. Mais c'est un monde virtuel. C'est un monde virtuel. Il n'y a pas d'autre solution que de revenir aux fondamentaux. Il faut y aller soi-même, comme pour les essais. Hein, il faut y aller soi-même.
Là, ça va être difficile. Hein. Avec les IA génératives, ça va être compliqué.
Mais sur
hein.
des petites choses, on ne peut pas le faire sur la dimension, mais il faut le faire soi-même. Il faut comprendre les choses soi-même. Et donc, je reviens, il faut instruire et penser soi-même.
À l'école.
Il faut des moments pour ça.
Monsieur.
Bonsoir, je suis Camille Massoir, directeur général d'une fédération d'éducation populaire qui a fait de la promotion des valeurs de la République et du principe de laïcité l'objet de l'association. Membre du conseil départemental de la laïcité, membre du conseil régional de la laïcité, on essaie de multiplier les fronts où on peut évidemment intervenir en tant que militant. Je voudrais d'abord saluer les trois intervenants de ce soir, remercier le conseil départemental d'avoir réuni trois disciplines qui me semblent fondamentales pour comprendre la loi de 1905, parce qu'une loi, en France du moins, ne tombe pas du ciel. Elle procède d'une intention avec un sens et dans un contexte donné, on a besoin de l'histoire, on a besoin de la philosophie, on a besoin du droit. La loi de 1905, de tout temps, elle a été attaquée, elle l'est de plus en plus ces dernières années, prise en tenaille entre les tenants d'accommodement raisonnable, la laïcité adjectivée que Frédéric a évoquée tout à l'heure, des logiques de communautaristes aujourd'hui qui visent à obtenir une différence des droits à travers le droit à la différence, mais également des partis notamment extrêmes qui aujourd'hui instrumentalisent la laïcité et la travestissent aux yeux des jeunes. Et je comprends que ce soit difficile pour les enfants et les jeunes de comprendre dans ce brouhaha entretenu savamment par les uns et les autres ce qu'est la laïcité. Et c'est raison de plus pour qu'on puisse agir tous ensemble à travers des dispositifs. Ça a été évoqué tout à l'heure sur le parcours laïque et citoyen, mais partout où on peut intervenir, le parcours laïque et citoyen est une manière, à travers l'éducation populaire, qui est aux côtés de l'école, qui agit en des temps extérieurs à l'école, mais d'essayer d'aborder par d'autres formes, sous d'autres biais, par d'autres vecteurs qui parlent davantage aux jeunes, de manière sans doute moins académique, mais de travailler à la liberté de conscience. Cette loi, c'est ma question que je voulais vous poser, qui est attaquée de toutes parts et qu'on présente comme le signe de l'obsolescence d'une loi qui date donc d'il y a 120 ans aujourd'hui. Est-ce qu'elle n'est pas au contraire extrêmement futuriste, avant-gardiste, moderne, universaliste et qui mérite qu'on se remonte tous les manches aujourd'hui pour permettre, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure les uns et les autres, à un moment donné, aux jeunes, qui sont les citoyens d'aujourd'hui et qui avaient à faire la société de demain, mais en fait, de construire votre pensée et de construire la société qui vous appartient.
Merci. C'est un vaste sujet qui sera peut-être conclusif parce que...
Non, mais moi, je serais tenté d'apporter une réponse à ce qui a été dit. Oui.
Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à un non en même temps. Mais non, je veux dire, avant-gardiste, c'est intéressant parce qu'on parle souvent de la laïcité à la française et on dit, alors elle est attaquée, elle est menacée, elle est en crise, c'est compliqué. Moi, je pensais, et vous en avez parlé au tout début, je pensais à tous ces pays qui ne sont pas laïcs au sens français et quasiment tous dans le monde. Hein, parce que je crois que lors d'une précédente conférence, on avait essayé de chercher les pays qui étaient laïcs à la française. Et je crois que dans le monde, il n'y en a aucun. Comment ça se passe à côté ? C'est-à-dire, est-ce que la France doit se soucier ? On a quand même cet arsenal-là qui est très fort pour le vivre ensemble, on n'en a pas trop parlé, mais, et le respect de chacun. Mais ce n'est pas la révolution dans tous les autres pays. Donc, quelque part, est-ce qu'on ne se met pas trop la pression en France avec cette loi de 1905 et qui n'existe pas ailleurs. Il y a des accommodements partout, mais on est plutôt bien lotis en France par rapport à ça.
Oui, mais tout à fait. Mais il faut qu'on se mette la pression, moi, je pense aussi. Il faut qu'on se mette la pression, parce qu'on a un modèle à défendre. Alors, moi, ce que j'aurais tendance à dire pour accompagner mon oui, c'est de dire que il s'agit de construire perpétuellement un espace non saturé. Je m'explique. Vous construisez une bibliothèque chez vous. Alors, bon, bah, vous allez mettre les livres dedans. Tous les livres que vous avez ou qui existent. Imaginons une bibliothèque dans laquelle il y a tous les livres qui existent. C'est ce que voulait François Ier, hein, avec la Bibliothèque nationale. Mais il vous faut quand même prévoir des espaces vacants, des espaces vides, qui vont accueillir les livres qui n'existent pas. Eh bien, la laïcité propose un espace de ce type non saturable, c'est-à-dire qu'il y a toujours un ailleurs possible. Toujours un ailleurs possible. Comme dans ma bibliothèque, j'essaye dans mon petit appartement de trouver des places pour les livres que je n'ai pas encore ou qui n'existeront jamais. Parce qu'il faut que je trouve toujours de l'air à côté de moi. C'est ça que nous avons à proposer, c'est la différence entre un espace laïque et un espace interconvictionnel. Vous aurez beau énumérer toutes les communautés existantes, vous n'aurez pas, il y aura toujours un moment où vous n'aurez pas assez d'air, où ça sera épuisé, parce que c'est épuisable. C'est inépuisable, la laïcité. C'est ça que je viens défendre aussi.
Merci Frédéric de la Morena. On va prendre aussi une réponse en guise de conclusion et d'espoir.
Oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une loi d'avenir. Pourquoi ? Parce qu'elle est universaliste profondément. Voilà. Et l'universel s'adresse à chacun. Parce que, de façon plus pragmatique, il y a plein d'États qui nous l'envient. Voilà. Il y a beaucoup d'États en ce moment qui disent que ça serait pas mal, finalement, cette histoire de séparation. J'insiste énormément sur le principe de séparation. Les Anglais qui sont allés dans la voie du multiconfessionnalisme, multiculturalisme, en reviennent totalement. Les Québécois, n'en parlons pas, les Canadiens, c'est absolument terrible. Eh bien, les Québécois commencent à se lancer dans cette séparation à la française. Donc oui, c'est une loi d'avenir parce que des pays regardent vers nous. Et en 1789, on était quand même tout seul. En France, voilà, on était quand même tout seul. Et on a eu la prétention, ce qui est quand même... moi, je trouve ça formidable, c'est peut-être utopique. Notre déclaration, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, on n'est pas le premier pays à avoir fait des déclarations de droits, ce sont les Anglais. Mais eux, les Anglais, quand ils ont fait leur déclaration, ils l'ont faite pour eux. C'est-à-dire, c'était un moyen pour eux d'affaiblir le pouvoir royal. Et ils ont mis en place le régime parlementaire. Mais nous, en France, en 1789, on fait une déclaration pour le monde entier. Ça, c'est magnifique. Voilà. Et je fais cette comparaison avec 1905. Je ne sais pas si elle a été faite pour le monde entier. Mais comme les gens voilà, regardent un petit peu notre structure, oui, c'est évident. C'est évident. Non, ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais si on est convaincu voilà, que c'est une loi d'avenir, il faut donc combattre contre ceux qui veulent la remettre en cause, parce que je suis absolument convaincue que la laïcité, c'est un combat. Et ça, c'est de la politique.
Et Yannis Rodard.
Alors, je vais dépasser le simple oui. Hein. C'était pour dire tout mon accord avec ce que vous avez dit. Moi, je pense vraiment que nous avons intérêt à expliquer et expliquer encore comment ça se passe ailleurs. Mais vraiment, je reviens là-dessus. Comment ça se passe ailleurs ? Comment on se marie ailleurs ? Comment on divorce ailleurs ? Comment on hérite ailleurs ? Comment tous les gestes du quotidien se déroulent et de la vie se déroulent ailleurs ? Et là, on se rend compte que, comme le disent mes élèves, voilà, c'est bien la France. Et c'est important, je crois, de se comparer. Vraiment de se comparer, parce que je pense sincèrement que nous avons un modèle extraordinaire. Un modèle qui nous permet, justement, dans une... liberté, dans une liberté assumée, dans une liberté garantie, dans une liberté assurée, de vivre librement nos cultes, nos croyances, si nous en avons envie, de vivre librement nos incroyances, si nous en avons envie. Et ça, c'est un luxe extraordinaire. Avec cet État protecteur, la laïcité est un vrai bouclier. Et qui nous protège et qui nous protège contre ce que nous avons déjà connu en France. Alors nous sommes ici tous trop jeunes, et oui, nous sommes tous trop jeunes pour avoir connu les guerres de religion, mais ce sont des événements absolument traumatiques, d'une violence inouïe qu'on a oubliée parce qu'on ne les enseigne pratiquement plus, et on devrait, je crois, réellement à nouveau les enseigner, parce qu'il n'y a pas plus cruel que celui qui tue au nom du bien. Et donc, cela, c'est notre histoire, et la laïcité, elle vient aussi de là. Et donc, il faut expliquer tout cela et faire de la pédagogie, et encore de la pédagogie. Et puisque j'ai le micro, je voudrais vous dire une petite chose. Vous n'imaginez pas la chance que j'ai de travailler régulièrement avec ces deux dames. Voilà.
Un grand merci à tous les trois.
Même audio, une mémoire sonore.